Et le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Des Français d'origine malienne en quête d'identité, adoptés par des couples français. On leur a menti. Ils demandent à la justice de faire toute la lumière sur leur adoption et sur leur prétendu abandon. La tolérance zéro du racisme dans la police, voulue par le gouvernement, les réactions politiques dans ce journal. Les cartes ont été rebattues en Libye. Un tournant majeur du conflit qui scelle l'échec de l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. Un concept pour sauver l'hôtellerie en mal de touristes et de clients. Transformer les chambres en bureaux, une idée mise en place par un hôtelier de Perpignan. Les Français toujours trop sédentaires, pas assez d'activité physique et la situation se dégrade particulièrement pour les femmes. La loi audiovisuelle, renvoyée au calende grec, elle devait passer à l'Assemblée nationale avant le confinement. Ce n'est plus une priorité aujourd'hui.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, un entretien exceptionnel avec le scénariste, réalisateur et producteur américain Spike Lee.
France Inter.
La face cachée, d'adoption au Mali dans les années 90, Laurence. 9 Français d'origine malienne portent plainte contre l'organisme Le Rayon de Soleil.
Escroquerie, recel d'escroquerie et abus de confiance. Les plaignants, adoptés il y a une trentaine d'années, accusent l'organisme d'adoption d'avoir menti à leurs parents biologiques pour les inciter à les confier à des familles françaises. Ils sont convaincus que leurs mères biologiques ne les ont pas réellement abandonnés. Falsification de documents, dissimulation d'informations, ces enfants devenus adultes veulent la vérité, Boris Allier.
Il y a un peu plus d'un an, Pauline Vassal découvre par hasard un article de la presse malienne qui la concerne directement.
Cet article, en fait, il disait qu'il y avait un papa qui recherchait ses jumelles qui avaient été données à l'adoption, placées dans une deuxième famille au nom de Georges Vassal et Claudine Vassal, qui est le prénom de mes parents. Même, je crois que le gros titre, c'était de ses goûts à Paris, les jumelles cessées ont-elles été vendues ? Un peu trop violent pour moi, quoi.
La jeune femme contacte donc l'association qui l'a prise en charge au Mali, Rayon de Soleil de l'enfant étranger. Elle se rend compte alors des incohérences qui entourent son adoption.
Quand j'ai vu mon dossier d'adoption, quand j'ai vu que j'avais 3 dates de naissance différentes, quand j'ai vu que l'acte de naissance avait été modifié, mon papa qui avait 3 prénoms différents dans le dossier, enfin à partir de là, c'était très confus.
La vérité, Marianne, 32 ans, la veut également, elle à qui on a raconté qu'elle avait été abandonnée. Mais en faisant ses propres recherches, elle découvre qu'elle a des frères et sœurs, eux aussi en France, et de la famille au Mali.
Moi, avec ma sœur, on a été séparés à l'aéroport au moment où il fallait retrouver nos familles. Mon frère, il savait très bien qu'on existait, mais Rayon de Soleil leur a dit que c'est pas vrai. Pour moi, c'est un vol d'enfant, quoi.
Et en déposant plainte, les deux femmes espèrent faire toute la lumière sur les premières années de leur vie.
Boris Allier, de son côté, l'association mise en cause dément tout acte de malveillance. Les syndicats de policiers dubitatifs après l'annonce hier de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, d'abandonner la méthode dite d'étranglement lors d'une interpellation. Ils s'interrogent quelles alternatives dans ce cas, et s'il y en a, il faudra trouver, disent-ils, le temps de les enseigner. Réaction côté politique, et alors que de nouveaux rassemblements sont prévus ce soir à 18h dans plusieurs grandes villes de France, à gauche, certains saluent une prise de conscience, Élodie Forêt.
Christophe Castaner est sorti du déni total, applaudissent les insoumis. Un premier pas dont il faut se réjouir, dit le député Alexis Corbière.
Le fait que le ministre de l'Intérieur s'exprime sur ce sujet est une victoire de tous ceux qui se mobilisent depuis des années sur ces sujets et qui avaient face à eux une manière de refuser systématiquement le débat, de considérer que quiconque posait des questions faisait de la haine anti-flic. Bref, c'était le blocage. Et là, on voit, du fait de la mobilisation, le ministre est obligé de bouger. J'ai envie de dire, ouf, on peut respirer, on peut discuter maintenant.
Un premier pas donc, même si on est encore loin du compte, soupirent les écologistes. Rien sur le contrôle au faciès, pas d'interdiction du plaquage ventral. À droite, Aurélien Pradier, secrétaire général du parti Les Républicains, n'est pas satisfait non plus. Pour lui, le ministre de l'Intérieur n'a fait que rappeler des évidences.
La réalité, c'est que Christophe Castaner vogue au gré du vent, il surréagit aux situations. Il n'est pas capable de faire preuve de sang-froid, de véritable stratégie. C'est pas une énième annonce juste après l'épisode médiatique particulier qui va régler un problème beaucoup plus profond.
Et les critiques les plus dures venant sans surprise du RN, le parti de Marine Le Pen, accuse le pouvoir de se coucher sous la pression, je cite, d'une famille de délinquants notoires et de quelques excités.
Élodie Forêt. Aux États-Unis, Houston se prépare aux funérailles de George Floyd à 18h, heure française. En attendant, plus de 6000 personnes lui ont rendu hommage et le policier blanc accusé de meurtre a été entendu une première fois par la juge qui a fixé sa caution à $1 million. En Libye, est-ce la fin de partie pour le maréchal Haftar? La bataille de Tripoli, lancée il y a plus d'un an maintenant, s'est transformée en cauchemar pour l'homme fort de l'Est libyen, qui garde cependant le soutien de ses alliés comme l'Égypte. Le maréchal Haftar, qui affirmait il y a encore quelques mois contrôler 80% d'un pays livré au chaos, a dû ces dernières semaines essuyer plusieurs revers face au gouvernement reconnu lui par les Nations Unies. Omar Waman.
Le maréchal Haftar avait promis de prendre le contrôle de Tripoli en quelques jours, mais la promenade de santé qu'il prévoyait s'est soldée en véritable débâcle militaire.
Le maréchal Haftar est dans une situation très difficile.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.
Mais il n'a pas dit son dernier mot parce qu'il conserve le soutien de puissances régionales et internationales, ce qui lui donne une nouvelle vie.
En grande difficulté, le maréchal Haftar n'a pas eu d'autre choix que de donner son accord au plan de paix de l'Égypte, son allié venu à sa rescousse avec cette initiative tardive pour tenter d'instaurer un cessez-le-feu.
Il est très difficile pour l'Égypte d'être juge parti. Et c'est pourquoi aujourd'hui la confiance est rompue entre l'Est et l'Ouest, et c'est pourquoi le cessez-le-feu n'est pas entré en vigueur aujourd'hui.
Car sur le terrain, l'heure n'est pas à la trêve pour les forces de Tripoli, parties à l'assaut de la ville de Sirte et des terminaux pétroliers de l'Est du pays.
Et évidemment, l'occupation de ces sites pétroliers constitue une ligne rouge pour le Caire et pour Abu Dhabi.
L'Égypte et les Émirats arabes unis, parrains du maréchal Haftar et soutenus par la Russie de Vladimir Poutine, sont bien décidés à défendre leurs intérêts face aux forces de Tripoli appuyées par la Turquie qui ne cesse d'asseoir son influence en Libye.
France Inter, il est 7h37. Inquiétude en Grèce, Laurence. Au moment où le pays s'apprête à entamer sa saison touristique dans une semaine.
Oui, car les nouveaux cas de Covid-19 repartent à la hausse. Presque un tiers de ces 97 nouveaux cas concernent des voyageurs de l'étranger. Depuis deux semaines, les bars, les cafés sont rouverts dans le pays, mais les mesures de distance physique sont assez peu respectées. Alors le président de l'Union des médecins n'exclut pas de nouvelles mesures de restriction si les recommandations sur le port du masque et la distance physique ne sont pas respectées. Et par ailleurs, l'OMS estime que la pandémie, si elle s'améliore en Europe, elle s'aggrave dans le monde et elle met en garde contre tout laisser-aller. Avec le coronavirus et le confinement, le télétravail est devenu la norme pour de nombreuses entreprises. Mais comme ce n'est pas toujours simple de s'isoler pour travailler, un hôtel de Perpignan propose une solution plutôt originale. Les Easy Rooms, des chambres d'hôtel transformées en bureaux, elles peuvent être louées à la journée, à la demi-journée, à des prix modérés. Sébastien Sabiron.
Conseiller en immobilier médical, Christophe Lebray occupe un bureau à l'hôtel Le Mondial. 20 euros la demi-journée, tout le confort moderne et suffisamment d'espace pour accueillir ses clients.
Ça m'évite de recevoir des gens dans un café où il y a toujours du bruit, ou quand on a des appels, bon, c'est pas toujours évident de répondre quand il y a des gens qui sont à côté, donc c'est pas mal. Et puis en plus, il y a une imprimante, donc voilà, ça permet de travailler tranquillement à l'hôtel, quoi.
L'établissement accueille des avocats, des agents immobiliers, des agents territoriaux dont les locaux sont encore fermés et qui veulent s'isoler pour télétravailler hors de chez eux. Jimmy Paradis, responsable de l'hôtel Le Mondial.
C'est une question de survie pour faire de la trésorerie, pour pouvoir louer nos chambres. En fait, si vous voulez, j'en ai 41 qui aujourd'hui sont libres quasiment tous les jours puisque j'ai pas grand monde le soir. Donc autant me louer mes 15 bureaux par jour pour pouvoir au moins maintenir nos 4 emplois que nous avons à l'année, parce qu'on a besoin de ça en fait. Les gens ont besoin de trouver des endroits pas chers.
Et le succès dépasse les attentes. 12 demi-journées réservées la première semaine. Jimmy Paradis.
Nous avons fait 2 jours consécutifs avec plus de locations de bureaux que de location de chambre en soirée. Donc oui, j'y crois à mon concept. En sachant qu'il faut une rigueur derrière, parce que vous pouvez pas louer ma chambre pour 20 euros pour, voilà, je vous laisse imaginer autre chose que travailler, n'est-ce pas?
Et l'hôtelier d'ajouter qu'en déplaçant quelques meubles, les bureaux redeviennent des chambres. Plusieurs de ses confrères l'ont déjà contacté pour adapter le concept à leur propre hôtel.
Sébastien Sabiron, le confinement n'aura sans doute pas amélioré la situation. Les Français dans l'ensemble ne font pas assez de sport. Surtout les femmes, elles bougent moins qu'avant. La population est également trop sédentaire, le temps passé devant les écrans a fortement augmenté. Or, manque de sport peut engendrer maladie du cœur, diabète ou encore cancer. Selon le dernier bilan de Santé publique France, Andy Dauphin, seulement 60% des Français sont considérés comme physiquement actifs. C'est une enquête qui a été réalisée avant la crise du Covid.
Pour les enfants, il est conseillé de faire une heure de sport par jour. Pour les adultes, c'est au minimum 2h30 d'activité modérée par semaine. Si 71% des hommes atteignent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, la proportion chute à 53% pour les femmes. Cet écart s'est creusé en l'espace de 10 ans. Les femmes ont décroché alors que chez les hommes, les cadras et les jeunes quinquagénaires se sont mis au sport. Même constat chez les enfants. Seule la moitié des garçons bougent assez. C'est un tiers chez les filles et l'activité physique diminue considérablement passé l'âge de 10 ans. Dans le même temps, la sédentarité gagne du terrain. Un indicateur, 8 adultes sur 10 passent plus de 3 heures devant un écran chaque jour en dehors du travail. Ils étaient 5 sur 10 en 2006. Même tendance chez les plus jeunes, 3 quarts des enfants et des ados passent plus de 2 heures par jour devant l'écran. Les garçons sont un peu plus accros.
Sandy Dauphin, le Covid-19 a fait une nouvelle victime en France. La loi audiovisuelle voulue par Emmanuel Macron, mise en chantier par Françoise Nyssen et rédigée par son successeur Franck Riester. Repoussée en raison de la crise sanitaire, ce texte ambitieux porté par le ministère de la Culture pourrait finalement ne pas voir le jour. Il était censé aboutir à la plus grande réforme dans l'audiovisuel depuis la loi Léotard de 1986. Mais le calendrier parlementaire, bousculé par le Covid, a été remis à plat. Le gouvernement pourrait tout de même prendre des mesures d'urgence pour venir en aide aux médias les plus fragiles. Alexandra Hakoun.
Pas de date dans l'agenda parlementaire et plus grand monde pour y croire, à part peut-être Franck Riester, le ministre de la Culture, David Assouline, sénateur socialiste de Paris.
Tout ministre tient sa grande réforme. J'étais déjà, moi, dubitatif sur son avènement rapide, parce que je ne voyais pas à l'Élysée le grand élan, en tous les cas, pour la faire aboutir. Aujourd'hui, elle semble enterrée, mais il y a des mesures importantes à prendre tout de suite.
Comme par exemple la transposition de la directive SMA pour obliger les plateformes à contribuer à la création française. Des mesures qui peuvent être prises par ordonnance ou par décret, Franck Riester en a d'ailleurs convenu, mais créer une holding pour chapeauter l'audiovisuel public qui forcément entraînerait des dépenses. Alors que France Télévisions vient d'annoncer 40 millions d'euros de pertes de recettes publicitaires à cause de la crise du coronavirus, voilà qui soudain semble nettement moins opportun.
Ce sont les moyens qui manquent et ce sont sur les moyens qu'on doit se concentrer maintenant. On aurait pu nous dire, la réforme, c'est pas pour maintenant, mais un plan de relance va arriver pour l'audiovisuel privé et public. Ce n'est pas le cas et ça, c'est pas de bonne augure.
On parle toutefois de mesures d'urgence, notamment en matière de publicité, qui pourraient être prochainement annoncées.
Alexandra Hakoun.
Merci Laurence Thomas.